Scribens O, Scribens A.
Antonella Fiori, poète marseillaise native du Sud-Ouest, à l'occasion de la sortie de son dernier recueil « Birds, ce sont les oiseaux » aux éditions de l'Aigrette, nous compte ses premiers pas dans l'écriture, la magie du stylo entre les doigts, ses traversées poétiques et prises de jeu, J-E-U. Bonne écoute. Alors, bonjour Antonella, merci de m'accorder cet entretien.
Ben, merci à toi de m'accueillir.
Et alors, toute première question, en fait, je voulais revenir sur un échange que nous avons eu il y a de cela une dizaine de jours. Tu m'avais parlé de tes premiers écrits, et il s'agissait de lettres que tu écrivais à ta grande sœur. Est-ce que tes souvenirs d'écriture remontent de façon plus lointaine que ça?
Alors oui, donc je te racontais que j'ai une sœur qui est beaucoup plus âgée que moi, donc où on a une grande différence d'âge. Et il se trouve qu'elle est partie en pension puisque nous vivions à la campagne dans le Sud-Ouest. Et à partir du collège et puis le lycée, elle est partie en pension dans un autre département, c'est-à-dire à Cahors. Et bien sûr c'était loin, donc elle ne rentrait pas tous les week-ends. On allait la voir de temps en temps le dimanche, alors c'était vraiment l'expédition, voilà, on préparait le pique-nique, enfin tout ça, etc., tu vois. Et en fait j'écrivais à ma sœur, c'est-à-dire que je lui, si tu veux, faisait un peu les chroniques du hameau, du village, de la famille, enfin, etc., etc. Je lui racontais ce qui se passait, voilà quoi, pendant son absence. Et c'est vrai que je ne me rappelais absolument pas de ce courrier. Et c'est mon neveu, un jour, qui me dit « Mais tata, pourquoi tu as écrit ça ?» Alors je lui dis « Mais comment comment j'ai écrit ça, mais quand, où est-ce que tu as vu ça, tout ça ?» Et en fait, c'est lui qui m'a appris que ma sœur avait gardé ses lettres et que ses lettres étaient au grenier. Donc ça m'a touchée, énormément touchée. Le fait d'écrire ces chroniques qui étaient adressées, c'est-à-dire je m'adressais à ma sœur. Il y avait un rapport à l'adresse, à une lectrice en tout cas, tu vois. Et après, oui, j'ai vraiment l'impression que, à partir du moment où j'ai su former des lettres, avoir, si tu veux, la connaissance de l'alphabet, je pense que l'écriture a toujours fait partie intégrante de moi-même, quoi. Ouais, je pense que je devais écrire. Je lisais énormément. Parce que bien sûr, le fait d'avoir une grande sœur, je veux dire, j'ai lu tout ce qu'elle lisait. Hein. Alors c'était les bandes dessinées, la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, et puis après, beaucoup plus tard, bien sûr, les classiques, c'est-à-dire George Sand, Flaubert, enfin tout ce qu'elle pouvait traverser au collège et au lycée. C'était sa bibliothèque, en fait.
Alors moi, j'ai envie de revenir sur un verbe que tu viens d'utiliser, le verbe « adresser ». Est-ce que toi, quand tu écris, tu t'adresses à quelqu'un, tu t'adresses au lecteur en particulier, ou c'est d'abord pour toi que tu écris ?
Alors, bien sûr qu'il y a une adresse, tout à fait, mais il y a une adresse, je veux dire, à l'inconnu. Je visualise pas quelqu'un, mais en tout cas, oui, à partir du moment où je suis publiée, c'est-à-dire je sais très bien que je vais être lue. À partir du moment où je fais une lecture, je vais avoir des auditrices, des auditeurs, etc., etc. Tu sais que ça va être partagé.
À propos de ces textes que tu es amenée à lire, ou que même peut-être d'autres sont amenés à lire en public, est-ce que tu perçois autre chose que ce que tu avait perçu à l'écriture?
Alors, bien sûr. Bien sûr, parce que si tu veux parler des retours que te font les personnes qui
ou toi-même, ou toi-même, d'ailleurs
au moment de le lire,
etc. Au moment de le lire, tu t'aperçois qu'effectivement un texte est polysémique de par la voix qui le prononce.
L'étymologie du mot spectateur, en fait, ça vient du grec speizai, c'est-à-dire miroir. Et c'est vrai que c'est à partir du moment où je suis face aussi... Moi, quand j'écris, je suis chez moi, tu vois, mon bureau, mon îlot un peu secret, tu vois, etc. Donc, avec, comment t'expliquer, l'inconnu devant moi, etc., etc. Là, tout d'un coup... tu te retrouves face à des personnes physiques, en chair et en os, etc., qui sont des miroirs, c'est-à-dire que je sens très très vite les choses qui résonnent, tu vois, celles qui ne résonnent pas, ou qui résonnent autre chose que, si tu veux, que celles que j'avais imaginées. Hein, donc, c'est-à-dire que tout d'un coup, ce rapport au public ouvre. Déjà, bon, j'ai quand même, si tu veux, je travaille dans une certaine polyphonie, tu vois. Et là, donc, ça ouvre d'autres champs. Et c'est pour ça que c'est quand même c'est assez magique aussi.
Et est-ce que ces lectures vont te permettre de t'enrichir pour écrire autre chose ? Différemment, ces lectures à haute voix en public.
Le fait d'être publié, c'est-à-dire le fait d'avoir un éditeur qui suit ce que tu écris, soutient ce que tu écris, etc., etc. Est-ce que ça agit sur ton écriture ? Certainement. Certainement, puisque... ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux, alors qu'avant, j'écrivais, je publiais beaucoup en revue parce qu'il y avait quelque chose d'assez simple. Tu écris un texte, tu envoies, tu es publié, c'est rapide, c'est, etc., etc. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans la même démarche. C'est-à-dire que je façonne un bouquin. Je suis dans cette démarche-là quand j'écris, même si tu veux, j'ai plein de carnets. Mais en tout cas, il y a toujours un moment où je construis, je vais construire un livre. Je creuse quelque chose. Tu vois, je suis en chemin vers cette évolution, en tout cas.
Quand sais-tu que tu vas commencer un nouveau chantier, un nouvel objet poétique, un nouvel ouvrage ? Comment ça se passe ? Tu as plusieurs carnets, tu écris de façon quotidienne et puis tout d'un coup, paf, tu te dis là, comme s'il s'agissait de la glaise, là ça y est, j'ai le matériau pour faire un beau vase ou pour faire un beau recueil.
Alors c'est vrai que, alors, si tu veux, voilà, donc moi à partir du moment où j'ai terminé un recueil, je l'envoie, et tout d'un coup, tu reçois la réponse, machin, tout ça, etc. Bon, à partir du moment où je dis c'est terminé, ok, là, je l'envoie, il ne m'appartient plus, tu vois, en tout cas, je n'y touche plus, etc., etc. Bien sûr, je recommence des carnets, je recommence un chantier. Mais... je ne sais pas, je recommence un chantier. Et puis, il y a, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se dessine. Et là, je me dis, tiens, ça va être le prochain. Ça va être la prochaine traversée. Parce que pour moi, ce sont des traversées. Et Et donc là, j'écris sans me... j'ai une ligne quand même directrice, si tu veux, mais... Et donc j'écris. J'écris. Alors tous les jours, pas nécessairement, ça dépend des périodes, de ce que je fais, si j'ai pas d'atelier, si... Voilà. Mais donc je vais... J'ai des carnets, depuis des années, j'ai un carnet que j'appelle carnet nomade esthétique du quotidien, tu vois. Et là, bon, voilà, j'écris sans trop me... Voilà. Et de temps en temps, bien sûr, je reviens à ma ligne, etc. Et souvent, en fait, c'est à partir, si tu veux, du mois de juin. Parce que je suis à partir de juin, je suis assez libre, j'ai plus d'atelier, j'ai plus de contraintes quelconques. Donc là, je vais m'y pencher plus, je vais vraiment me consacrer à la composition de ce recueil. En septembre, j'arrête tout. Et là, je sculpte, voilà, tu vois, j'enlève les petits débris, les petites choses,
Les scories.
les scories, voilà.
Depuis quand t'intéresses-tu à la poésie? Parce que tu nous as parlé de littérature, d'auteurs célèbres, d'une bibliothèque familiale, mais la poésie.
C'est à partir de Rimbaud. C'est, ben, je pense que c'est à l'adolescence. Voilà, parce que bon, je pense qu'à l'école primaire, ben, on a dû faire, tu sais, Prévert, ben, tu sais, toutes les poésies. Mais je pense que c'est à partir de ma découverte. Arthur Rimbaud, ça a été mon amoureux, quoi.
Je chéris ton cœur, adoré. La nuit, je parle seul, je te parle tout seul pour te dire des choses nouvelles. Je chéris ton cœur. Adoré, contournant un vaste chantier de pluie, de planches, d'acier, suspendu, songeant au sommeil mathématique des grues. Je chéris ton cœur, adoré.
Alors au quotidien, tu dis que tu n'écris pas forcément tous les jours, mais j'imagine de façon hebdomadaire, tu écris
Oui,
très
assez
régulièrement.
souvent. Alors, contrairement, ben moi j'ai des amis qui écrivent. Alors, c'est le matin, ils se lèvent à 5 heures, ils écrivent de 5 à 7 ou de 6 à 8, enfin, tu vois, etc., etc. Moi, je travaille, j'écris la nuit. J'aime beaucoup la nuit, en fait. D'abord parce que je déteste me lever très tôt le matin. Voilà, 9 heures pour moi, c'est bien. Et donc c'est l'heure où voilà, il y a de l'activité, il y a bon, et puis j'ai besoin d'aller marcher dehors. Enfin, pour moi, c'est hyper important. Et donc, par contre, oui, la nuit, j'écris le soir, quand tout est calme.
Mais tout de même, tes écrits sont des écrits, comment dire, diurnes. Donc, tu écris à partir de réminiscences.
Oui, certainement, oui, de ce que j'ai traversé, ou tu vois, bien sûr.
Est-ce que tu penses que si tu écrivais en déambulant, ce serait autre chose?
Ah oui, certainement. Bon, tu vois, ce serait parfois, je me suis demandé si et peut-être qu'un jour je ferai cette expérience, c'est-à-dire de m'enregistrer en marchant, tu vois, pour voir ce que ça pourrait produire. Voilà, ça fait partie de mes projets, en effet. tu vois.
Donc tu écris chez toi ?
Oui, c'est mon petit îlot, si tu veux.
Tu as un bureau ?
Oui, j'ai un petit appart, si tu veux, avec dans ce petit appart, voilà, il y a cet îlot privilégié qui est mon bureau, voilà, entouré de ma bibliothèque.
Et alors, quand tu écris, tu vas aller choper un livre qui résonne par rapport à... Pas du tout, vraiment, c'est une écriture qui t'appartient et tu n'as besoin d'aucun référent extérieur.
Alors non, je me lève pas pour aller chercher un livre. Mais par contre, il m'arrive bien sûr de quand j'ai cette ligne directrice du recueil que je suis en train de construire, etc., etc. Alors ça, je peux le matin, par contre, ou l'après-midi, tirer un bouquin de ma bibliothèque, lire des passages, faire ce travail, préalable.
De recherche.
De recherche, voilà. Mais quand j'écris, non, j'écris. Mais oui, il y a des moments pour ce travail de recherche.
Tout de même, après ces recherches, l'écriture s'impose-t-elle comme des fulgurances ou au contraire ça va être un travail où tu cisèles comme un artisan avec précision, etc., où tu laisses le stylo ou les mains, d'ailleurs on va parler du support sur lequel tu travailles, mais est-ce qu'il s'agit de fulgurances ou bien c'est un travail comme le pourrait le faire un diamantaire qui nécessite une précision, retailler une facette comme ci, comme ça, jusqu'à ce que tu trouves la formule juste, les mots justes.
C'est un peu comme si je taillais les pierres pour construire un chemin, bien sûr un chemin à l'horizontale, hein. Des fulgurances, comme tu dis.
Il sent te brider, quoi.
Mais ça me bridait, j'écris. Bon, voilà, puis sans chercher de lien nécessairement. Voilà, j'écris. Et voilà, septembre, donc c'est la rentrée. Là, je cisèle, je taille mes pierres pour qu'elles s'emboîtent bien entre elles, etc., etc., tu vois. Mais d'abord, c'est un peu comme si je préparais tous les matériaux.
Et écris-tu en musique ?
Non, je n'écris pas en musique. J'ai besoin du silence.
Et on parlait du support tout à l'heure. Tu as un support de prédilection, tu écris sur différents supports, par exemple stylo... D'ailleurs, quel stylo ? Est-ce que ça va être un stylo papier ? Est-ce que ça va être un stylo plume ? Est-ce que ça va être un crayon Bic ? Ou bien écris-tu directement sur ton ordinateur ? Certains même écrivent sur leur téléphone. Toi, tu as un support de prédilection ? Ou plusieurs même ?
Alors, moi, j'ai des carnets. Hein. Je veux dire, j'adore, j'ai des carnets. Au niveau des stylos, ça va du Bic en passant par le stylo plume. Enfin, j'ai plein de stylos. Et en fait, voilà, j'écris... par exemple, là en ce moment, j'ai commencé donc un carnet nomade, donc le stylo plume ne va absolument pas sur le papier. Donc par contre, le Bic, ça va très très bien, glisse très très bien sur le papier. Donc j'écris au Bic, au stylo Bic. Voilà. Je suis pas attachée
à un style de crayon en particulier.
Oui.
Parce que pour certains, le crayon, c'est quelque chose qui peut être très très important, la taille de la mine, etc.
Ah non, mais bien sûr. Moi, je m'adapte. Voilà, j'ai plein de crayons, plein de styles de crayons. Voilà, et c'est plus c'est plus un rapport au papier.
Plus un rapport au papier.
Voilà.
Mais tout de même, tu retranscris ensuite sur ordinateur.
Ah oui, il y a toujours un moment où ça passe sur l'ordi, bien sûr.
Et là, tu retranscris tel quel ou sur ordinateur, tu vas encore affiner ?
Alors, je pense que quand je saisis sur l'ordi, il y a un premier affinage. Tout d'un coup, je prends conscience de cette fulgurance. En septembre, je travaille sur l'ordi directement.
En fait, je voulais revenir justement sur le rapport entre la main le crayon et la page, la dernière fois, on se faisait la réflexion d'une main qui pourrait réfléchir indépendamment du cerveau. Tu es d'accord avec ça et...
J'attache beaucoup d'importance à la main. Je me demande, j'ai vraiment l'impression que parfois c'est la main qui écrit. C'est un peu comme si tout était déjà là, façonné par la main. Il suffit que je lui mette un stylo entre les doigts pour que j'ai pas d'effort à faire, si tu veux. J'aime bien ce côté mystérieux. Tu vois, où je me dis, mais qui est-ce qui écrit ? Est-ce moi qui écris ou...
Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du transcendantal ?
Oui, plus grand que moi, etc. Tu vois, je veux dire, il y a toujours une étrangeté, quoi. Tu vois ? Qu'est-ce qui écrit en moi ou à travers moi ? Peut-être c'est moi qui écris, peut-être c'est pas moi non plus. Enfin, mais en même temps, j'aime bien ce mystère.
Et est-ce que justement, le fait que tu ne saches pas au préalable, que ton cerveau ne sache pas au préalable ce que va produire ta main, justement, t'entraîne à écrire pour savoir que va donc écrire ma main aujourd'hui.
Mais oui, c'est merveilleux, c'est comme un jeu en fait, où tu vas de surprise en surprise aussi.
J'imagine que tu as des thématiques de prédilection. Dans le recueil Tenir, le pas gagné, tout comme espèce relique, on y parle beaucoup de l'environnement et urbain et...
Végétal.
Est-ce que ces environnements-là sont des thèmes de prédilection ou c'est arrivé par hasard? C'est pas forcément quelque chose que tu as décidé au préalable?
Alors, si tu veux, thème de prédilection, je ne sais pas. Mais c'est vrai que Tenir le pas gagné, alors d'abord je dois dire que c'est un vers d'Arthur Rimbaud hein, dans Une saison en enfer. J'adore ce titre, enfin en tout cas ce vers, Tenir le pas gagné, à double sens, plein de sens en fait, et c'est ce qui est merveilleux. Si tu veux, donc c'est un montage de carnets, donc de plusieurs carnets, sur plusieurs années. Et donc, bien sûr, moi, je vis à Marseille, donc ce sont des carnets que j'ai écrits, où, bien sûr, je marche dans la ville. Hein, et la ville, c'est Marseille, bien sûr. Hein. Et Espèce relique, donc, il se trouve que ce sont des textes qui ont été écrits pendant le Covid. J'ai eu la chance de pouvoir partir à la campagne. Donc, j'étais vraiment... entouré d'arbres, d'oiseaux, de végétal, d'organique, etc. quoi, de sangliers. De... Voilà. Donc j'imagine si demain je me retrouvais sur un bateau au milieu de la mer Méditerranée, j'écrirais à partir de cet environnement.
Et Laurette repose sur un moment d'histoire, de même que l'usine, les stacks, moi. En quoi, pour toi, l'histoire peut être poétique ?
J'ai fait ce travail autour de l'histoire, de la mémoire ouvrière donc de les stacks, hein, du quartier de Rio. Donc, c'est là où il y a toutes les usines, le complexe pétrochimique... Peñarroya, Kuhlmann, Rio Tinto avant, etc. Parce que il se trouve que je me trouvais dans ce quartier. J'y allais au quotidien, donc dans l'ancien cinéma du quartier de Rio. Et je montais cette rue Antoine Castejon. Je voyais ces usines en ruine autour et je sentais sous mes pieds qu'il y avait eu des milliers de pieds. Je sentais qu'il s'était passé quelque chose de très fort dans ce quartier. Et donc un jour, je suis allée à une réunion, j'ai vu à la boulangerie donc, du village qu'il y avait une réunion tu vois, le maire, les élus locaux, etc., au sujet d'un plan d'aménagement. Alors j'ai dit, oh, je vais à la réunion parce que moi j'ai très envie de rencontrer des gens qui acceptent de me parler de ce temps. Et donc je suis allée à la réunion, et puis à la fin, bien sûr, ils tendent le micro, les gens sont censés poser des questions qui ont un rapport avec le plan d'aménagement urbain, etc. Non, moi j'ai pris le micro, je me suis présentée. Puis voilà, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai expliqué, je sens qu'il s'est passé des choses extraordinaires dans ce quartier, avec toutes ces usines, etc. Et donc, à la fin de la réunion, il y a trois personnes qui sont venues me voir en me disant, écoutez, nous, on accepte de venir vous rencontrer pour vous raconter. Et donc, au début, j'avais pas du tout, j'envisageais pas du tout d'écrire quelque chose. Pour moi, c'était vraiment... un rapport très pareil, le jeu, l'enfant, on va me raconter des histoires, c'est extraordinaire, et puis ça permettra aussi de faire des ponts avec les habitants de ce quartier, etc. Ça faisait pas très longtemps que j'étais à Marseille. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée, donc on se voyait dans le cinéma, une fois par semaine, genre un par un, ils venaient, etc. Je les enregistrais. Si tu veux, il y a un moment où je me suis dit, mais il faut que tu fasses quelque chose avec tout ça. Et c'est à partir de ce moment-là que, si tu veux, j'ai décidé d'écrire ces témoignages. Donc, une partie a été publiée dans la revue Gnoc.
Mais ce sont des témoignages, mais d'ordre poétique.
Alors, c'est peut-être, après mon regard... Ma plume, ma main, mon stylo, mon bic, enfin, ce que tu veux, quoi. C'est-à-dire, après, bien sûr, j'ai décrypté ces témoignages et j'ai pris... pareil, j'ai fait un montage.
Et alors, du coup, on se pose la question de savoir qu'est-ce que l'acte poétique, qu'est-ce que la poésie, comment, d'un témoignage, tu en as fait quelque chose de poétique, ce qui revient à la question suivante. Qu'est-ce que ta poésie? Qu'est-ce que la poésie?
Ben, je dirais que c'est un regard sur le monde. Un regard singulier, peut-être.
Je reprends cet exemple des témoignages. Tu as eu des témoignages, tu les as enregistrés, c'était des choses brutes. Et toi, tu en as fait quelque chose de poétique. Comment s'est passé à la moulinette de la poésie?
Ben, j'avais envie de les rendre beaux. Ben, c'est pas évident. Moi, j'étais très très jeune. Ces personnes qui, quand même, avaient un certain âge, qui... J'arrivais... tu vois, j'étais pas la télé. J'étais pas le journal machin. Tu vois, j'étais une petite nana qui avait envie qu'on lui raconte ces histoires, cette mémoire ouvrière, c'est-à-dire ces choses qui se sont passées, tu vois, et j'étais pas de Marseille, hein, j'arrivais du sud-ouest, et même mes amis marseillais ne savaient même pas, tu vois, ce qui s'était passé en 47, tu comprends, quoi. Et tout d'un coup, c'était extraordinaire. Et c'est pour ça que je me dis, mais c'est pas possible, tu peux pas. Ils t'ont donné de leur temps. Ils sont venus une fois par semaine passer ce temps avec toi. Ils t'ont fait confiance. Ils t'ont confié des choses qu'ils n'avaient peut-être confiées à personne. Ils le font pas pour tout d'un coup passer à la télé, pour être, tu vois. Ils le font parce que pour eux, c'était devenu une nécessité. Tu vois ? Pour eux, cette mémoire, elle devait pas se perdre.
Et donc, tu les as rendus beaux, ce qui signifie que finalement, la poésie est un acte esthétique.
Oui, en quelque sorte, oui. Il n'y a pas qu'une seule esthétique. Donc, si on part de ce principe-là, tu vois.
C'est ton esthétique à toi. Mmh. Et quel a été, justement, le retour de ces gens qui ont témoigné quand ils ont lu ce que tu avais écrit ?
J'avais appelé ça brut de coffrage au départ, parce que pour moi, c'était un peu comme si... Ils étaient des totems. Tu vois, il y avait quelque chose... Je veux dire, il y avait l'engagement politique, il y avait les luttes sociales, il y avait le communisme, bien sûr, hein, etc., qui les portait, qui les a emportés. Hein. Et moi, j'étais là autour, avec, ça me renvoyait à ma difficulté de m'engager, même m'engager politiquement. Tu vois, cette peur de perdre ta liberté. Je veux dire que j'étais en questionnement. C'est pour ça que c'est intéressant. Je veux dire, sans l'autre, on ne serait rien, quoi. Comment, je veux dire, une rencontre va te déplacer. Tu vas les déplacer, mais ça te déplace aussi, quoi. Et c'est pour ça que j'aime bien cette idée de l'aller-retour, comme ça, un peu permanent. Et donc, quand je leur ai lu, bien sûr, je leur ai lu le texte avec aussi toute ma réflexion. Ils ont trouvé ça formidable. Alors que je me disais, mais ils vont trouver ça complètement atomisé. Mais formidable, formidable. Donc c'était à l'Estac, dans l'ancien cinéma. Et un soir, j'étais là. Et il y a Nanouk Broche qui est venue, qui habitait à l'Estac. Donc elle est metteur en scène. Elle était aussi prof à la fac théâtre. Et elle est venue dîner, donc, parce qu'elle connaissait le metteur en scène qui vivait dans l'ancien cinéma. Et donc, mais c'est vrai que, bon, elle arrive avec ses lunettes noires. Et donc, je lui ai parlé de ce travail. Elle me dit, mais quand vous avez fini, ça m'intéresse. En fait, je veux bien lire, etc. Et donc, une fois que j'ai eu terminé Brut de coffrage, je lui ai fait passer donc, le tapuscrit par une copine comédienne qui la connaissait. Je n'avais même pas mis mon adresse ni mon numéro de téléphone, pensant qu'elle allait trouver ça, cette façon d'aborder la mémoire ouvrière complètement, pas du tout traditionnelle. Mais encore une fois, je ne suis pas historienne, je suis poète, tu vois, bon. Mais pas du tout, pas du tout. 3 jours après, téléphone de l'amie, elle veut te rencontrer, elle trouve ça formidable. Donc voilà, donc puisqu'elle a animé un atelier de lecture à voix haute avec les étudiants d'Eust Théâtre. Donc il y a eu toute une série de lectures avec les étudiants, puis après elle l'a mis en scène. Et là, c'était formidable parce qu'ils étaient tous là. Tout cela, et c'est vrai que ce qui était aussi formidable, on est allé dans le Luberon, il y avait un petit festival de théâtre qui s'appelait, je ne me rappelle plus du tout, et là on était dans un petit village, et c'était formidable de rencontrer toutes ces personnes à qui cette mémoire, bien sûr, parlait énormément.
Et là, c'était en quelle année ?
Alors ça, c'était au début 2000, tu vois.
Parce que nous sommes dans 2026, comment pourrais-tu dire que ta poésie a évolué, ton écriture a évolué entre ce moment-là et maintenant et aujourd'hui?
Je pense qu'il y a une maturité, quelque chose qui s'est installé, quoi. Je pense que l'écriture, elle évolue aussi avec le fait de grandir. Où il y a quelque chose qui se pose, il y a aussi la traversée, hein, ce que j'ai traversé aussi, quoi. Hein. C'est-à-dire que je pense, comme je t'expliquais l'autre jour, donc c'était une période où, en effet, j'étais très, j'avais, bon, j'ai la patate, si tu veux, je suis quelqu'un qui a la pêche, mais c'était encore... Tu vois, j'étais encore plus survoltée, quoi, peut-être. En effet, je traçais, quoi. Prix de poésie, bourse du CNL, allez, vas-y, etc. Tu vois. Et en fait, il se trouve que j'ai perdu brutalement un ami dans un accident de voiture. Et quelques temps après, mon père s'est suicidé. Et aujourd'hui, je peux en parler. Mais je n'étais absolument pas prête. C'est-à-dire que c'était... Je pense que j'étais immortelle, si tu veux. Quand je dis je fonçais, il y avait quelque chose, si tu veux, bien sûr, on discutait sur la mort, etc., ou on philosophait sur la mort. Mais moi, je n'avais jamais été confrontée comme ça à la mort de personnes de soutien aussi proches. Voilà, c'était quand même un peu violent. Donc... si tu veux, je suis descendue de la machine, je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Et ben là, j'ai traversé quoi cette phase de deuil avec des moments aussi, oui, où j'en voulais à la vie, etc. J'ai écrit énormément, heureusement que j'avais l'écriture d'ailleurs, tu vois.
Ça a été un tournant.
Ça a été un tournant, ouais, oui.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous les faces aviné, mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.
Et c'est une période où je dois dire où j'ai, parce que j'aurais très bien pu sombrer, enfin, etc. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment tenue, c'est-à-dire que je me suis retrouvée dans des super projets d'ateliers d'écriture. Et je dois dire que donc j'ai fait beaucoup, beaucoup d'interventions en ateliers d'écriture. J'étais sur des projets longs, hyper intéressants, avec des publics qui n'avaient pas nécessairement accès à l'écriture, au langage, aux mots, etc. Et ça, cette chose-là, c'est quelque chose qui m'a... Le fait de transmettre cette passion, en fait, tu vois, c'est quelque chose qui m'a vraiment tenue, tu vois, et qui m'a vachement aussi... aider dans cette traversée. Ouais.
Et est-ce que les ateliers d'écriture nourrissent ton écriture? Ou c'est complètement
non,
indépendant?
Je fais la séparation. Je vais donner des clés, c'est-à-dire quand je prépare des consignes, je vais me servir de mes façons d'écrire ou les consignes que je peux me poser, etc., etc., pour les accompagner, etc. Mais non, je fais la séparation.
Et mais tu animes des ateliers d'écriture, mais tu participes à une écriture de plateau avec des enfants.
Oui, alors ça c'est assez merveilleux. Et je tiens à remercier Laurence Janer, parce que c'est elle qui... Elle était justement, je l'avais rencontrée parce qu'elle était venue... voir Ben, une date de bruit de coffrage, donc, à l'Estac. Et je l'avais rencontré à ce moment-là. Mais bon, pas plus que ça, quoi. Et un jour, elle m'appelle pour me proposer donc de mettre en place des ateliers d'écriture de plateau auprès des enfants et des adolescents du Madame Théâtre. Donc c'était en 2002, tu vois. Et bien sûr, au départ, panique générale, parce que moi, je n'avais absolument jamais fait ça. Donc au début, ça, je préparais beaucoup, ça me demandait énormément de travail, etc. Et aujourd'hui, je m'éclate. J'adore. J'adore ces ateliers. Voilà. Donc j'interviens, si tu veux, sur 10 séances. Et donc c'est avec moi que les enfants et les adolescents écrivent la pièce de théâtre, qui après est mise en scène, travaillée. Alors je travaille bien sûr en collaboration avec le professeur de théâtre. Et après, bon, ils répètent, etc. Bon, moi, je vais les voir une fois au mois de mai ou un truc comme ça, mais j'interviens plus. Et après, c'est présenté, bien sûr, dans le théâtre du Badaboum. Voilà, c'est-à-dire que les enfants sont, et les adolescents sont confrontés à la scène, au public.
Et dans cette écriture de plateau, tu insuffles de la poésie ?
Ben, je pense, oui.
Et puisque tu écris avec...
J'écris à partir des propositions, donc ils créent leur personnage, à partir de là, on va définir un synopsis, et après, ils improvisent, hein, des petits échantillons. Donc voilà, c'est touchant, parce que quelque part aussi, ce sont des enfants, et c'est pas évident, tu vois, d'improviser. Mais je dirais, l'année dernière, donc, j'ai fait une intervention dans un atelier adulte. Je dirais que je préfère travailler avec les enfants. Parce que, avec les enfants, il y a un tel rapport au jeu. C'est magnifique. C'est. De suite, on est. Percuté dans l'histoire. Il ne faut pas grand-chose pour. Et si tu veux, avec les enfants aussi, il y a un côté très sauvage, tu vois. C'est-à-dire que ils ont pas, ils peuvent tuer et puis être des petits anges et puis, tu vois, il y a pas de culpabilité ou voilà. Avec un adulte, c'est beaucoup plus compliqué, hein, puisque avant de se lâcher, quoi. Les enfants, ils se lâchent de suite. Et c'est génial, les propositions aussi de leur... Moi, je trouve absolument déjà génial de leur laisser cet espace de la création, c'est-à-dire qu'ils deviennent des enfants créateurs. Puisque la plupart du temps, aujourd'hui, les gamins, ils consomment du jeu vidéo, du dessin animé, etc., etc. Et là, en tout cas en ville, il n'y a plus trop de territoire de fiction pour les enfants. Ils sont dans les appartements, tu vois... toujours un adulte un peu dans les parages, etc. Et là, donc, c'est vraiment le territoire de la fiction. Et ça, c'est génial, quoi, cet espace.
Mais j'ai l'impression que tout de même, il y a un mot qui est présent quasiment tout le temps, en tout cas qui marque ton parcours, c'est l'aspect ludique, le jeu. Dans ta façon d'appréhender l'écriture, il faut que ce soit ludique, il faut que tu sois attiré par ce mystère. Mon Dieu, mais qu'est-ce que ma main va écrire aujourd'hui ? Le rapport des enfants au jeu, il y a ce côté ludique. Quand tu fonçais tête baissée, la vie était comme une cour de récréation. J'ai l'impression de la façon dont tu en parles. Voilà, la vie était une cour de récréation. Et il y a ça qui émane de toi, ce côté joueur.
Oui, peut-être que si tu veux, c'est ce jeu qui conditionne mon engagement dans l'écriture, quoi.
On a parlé de Rimbaud, mais est-ce que tu as d'autres mentors et d'autres sources d'inspiration ?
Moi, je lis beaucoup, hein, comme tu as compris que la lecture fait partie intégrante de mon existence. Alors, je lis beaucoup, mais je me rends compte que je ne suis pas une lectrice de romans, pas trop. Pas trop, ou alors oui, peut-être le roman en été, quand je suis en vacances, à la campagne, je peux me caler sur un transat pendant des heures. Tu vois, mais je lis beaucoup d'essais, beaucoup de philosophie, beaucoup de poésie.
Et pourtant, je rebondis sur, ouais. Sur le récit parce que j'ai pu noter que dans beaucoup de tes recueils, il y avait quelque chose de très narratif. On a l'impression que tu commences une histoire et puis tout d'un coup, il y a une bulle de deux vers. Alors je me demandais, est-ce que ces deux vers sont comme une virgule.
Moi, il y a un auteur donc, que j'ai découvert et qui m'a fait percuter, c'est Claude Simon. Je ne sais pas si tu connais, il a été prix Nobel de littérature en 85, donc. Et si tu veux, il a écrit un bouquin qui s'appelle Le jardin des plantes. Tu vois, je l'ai amené. Tu vois la pagination.
Oui.
Et donc, ce jardin des plantes, si tu veux, donc bien sûr, c'est à Paris, donc dans le jardin des plantes, il y a des centaines de minéraux, de végétaux, etc., etc. Donc, tu vois, tu te balades au milieu de ce spectacle différent, si tu veux. Tu parcours les allées, les couleurs changent, les végétaux aussi, les minéraux, enfin, etc. Et donc, Claude Simon, donc, lui, il va combiner des fragments. Il va combiner des fragments, si tu veux, donc, mais des fragments épars de la vie d'un homme, si tu veux, tout au long du XXe siècle. C'est aussi aux quatre coins du monde. Si tu veux, l'ensemble est un peu construit comme... c'est un peu comme le portrait d'une mémoire, tu vois. Et donc tu déambules. Bien sûr, ça raconte une histoire. Mais... c'est une façon pour moi de lutter contre l'immobilisme quelque part. Puisque c'est quelque chose, tu peux lire comme ça, page par page. Tu peux aussi lire un fragment, lire un autre fragment, trois pages plus loin, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une lecture possible. Il y a des tas de lectures possibles. Et dans ce que je construis, c'est la même chose. Tu vois, il y a Claude Simon, donc, qui a été, voilà, quelque part aussi un mentor, tu vois, dans ma façon d'écrire ou de construire quelque chose. Et il y a aussi Godard, c'est-à-dire que, si tu veux, cette histoire du cinéma de Godard, je l'ai écoutée pendant des heures et des heures, c'est-à-dire je m'allongeais sur mon canapé et j'écoutais sont les montages sonores de ces films hein, que tu vois j'ai amené le bouquin là si tu veux on peut regarder j'ai ces références là.
Il y a eu un film en particulier qui a été déclencheur chez Jean-Luc Godard qui t'a donné envie d'écouter les bandes son de tous les autres films?
Non, parce qu'en fait je vais te dire sincèrement, je crois que j'ai vu très très peu de films de Godard. Mais par contre, j'ai écouté ces bandes-son pendant des heures et des heures.
Ça, c'est dingue.
Allongée sur mon canapé.
Ça, c'est dingue. Et tu imaginais?
Oui.
Tu te faisais un film?
Complètement.
Donc, c'est Jean-Luc Godard. C'est pas un autre cinéaste de la Nouvelle Vague?
Non. Non, non.
J'aimerais bien, effectivement, que tu nous le lises un extrait de JLG par JLG, c'est ça?
Ben
et
oui.
Autre texte?
Ben oui, si tu veux, je peux te lire un passage.
Thank you.
octobre 45. Tristan Bernard, c'était celui qui disait « Quand on voit le Havre, c'est qu'il va pleuvoir. Et quand on ne le voit plus, c'est qu'il pleut. » Comment ça va, en bas? Tu n'avais qu'à venir. On y va. Je vous ramène là. Mais je vais juste leur dire au revoir, moi aussi. Au revoir, messieurs. Goodbye. Au revoir, mademoiselle. Je voudrais vous dire quelque chose. Au revoir, madame. Au revoir. Bon courage. Merci. Vous vouliez me dire quelque chose? Quand est-ce que le regard a basculé, à votre avis?
Je te vois, t'as un grand sourire. Et justement, parmi tous les, comment dire, là, tous les recueils qui sont devant nous, peux-tu choisir un texte qui résonne avec cet extrait de JLG par JLG pour toi?
Voiture, moto, camion, mobilette, klaxon, bus, tramway, chantier, bagarre, sirène des ambulances, sirène de police, alarme mise en marche, animation commerciale des rues, animation commerciale des quartiers, musique diffusée par haut-parleur, fenêtre ouverte sur musique à plein volume, sonnerie de portable, travaux de réfection, travaux d'entretien, construction de bâtiments, démolition d'immeubles anciens, musique d'ambiance dans les magasins, autoradio de la voiture en marche, transport en commun, télévision omniprésente. La ville est une musique de chantier. Des communautés de décibels s'y combattent et y font alliance. La ville est discordante, comme un orchestre symphonique avant le concert, lorsque chaque musicien accorde son instrument pour lui seul. Les grues qui tournent dans le ciel avec leurs paquets de moellons et leurs poutrelles font des gestes lents de girouette ou de boussole. Au large, la mer est ronde et bleue, traversée de risées qui s'en vont au loin. En 1952, John Cage compose un morceau pour piano de 4 minutes 33 de silence, en soutenant que le silence est une note.
Merci. Et là, on en est venu aux lectures. Tu as envie de... Là, je te vois rebondir sur un autre texte, sur le... Est-ce que justement, dans la continuité de ce texte que tu viens de nous lire, qui est issu, tu ne l'as pas dit, du recueil...
Tenir le pas gagné.
Voilà, exactement. Dans la continuité de cet extrait, est-ce qu'il y a un autre passage d'un autre recueil qui résonne, etc., etc. On peut se faire une lecture cadavre exquis, finalement, entre tes différents recueils.
Là, c'est un extrait de L'usine Lestac et moi. Ce que nous faisions à Pénarouilla, premièrement, nous faisions des couronnes de plomb, mais du jour au lendemain, nous avons fait du fil de plomb. Un jour, nous avons demandé au patron « À quoi il sert ce fil à plomb ?» Il nous a répondu « C'est du fil à balle. » Alors nous nous sommes aperçus que le fil à balle partait directement sur les quais pour l'Indochine, pour la guerre en Indochine. Nous avons fait une assemblée générale, nous avons expliqué aux ouvriers que le fil de plomb que nous fabriquions servait à tuer nos frères en Indochine et qu'il fallait faire quelque chose dans l'usine. Nous avons décidé d'arrêter la production pendant 48 heures, de stopper définitivement la fabrication du fil à balle.
Merci, merci pour cet entretien. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ?
Écoute, je voudrais te remercier pour ton accueil et ta proposition aussi.
Merci, c'était un plaisir. Bird of Feather de Billie Eilish pour clore cet épisode, c'est que cette chanson résonne avec le titre du dernier recueil d'Antonella, Birds, ce sont les oiseaux. Une chanson qui résonne aussi avec quelques vers que l'on peut retrouver dans ce tout nouvel opus. Que veux-tu que je devienne si je n'entends plus tes pas? Est-ce ta vie ou la mienne qui s'en va, je ne sais pas. À très bientôt et merci à Radio Galère.